de vous. Un grand merci à Emma qui vient de jouer du jazz, qui est la forme sérielle de Bouzouki. Et cette pièce musicale nous a transporté au Moyen-Orient. Merci à lui, et tout à l'heure il jouera d'un autre instrument. Merci de votre présence précieuse ce soir. Les uns les autres, évidemment, nous sommes traversés par l'émotion, car cette soirée qui avait été préparée et voulue depuis longtemps par notre association, la Fraternité Chrétienne Saint-Orient, qui est animée par deux comités de jumelage, et un comité de jumelage qui est lié à la paroisse de Saint-Dimitri à l'Air, et c'est une paroisse du Mans, Saint-Adric, qui vit ce jumelage. Et puis notre jumelage de la paroisse Notre-Dame de la Couture et de la cathédrale Saint-Julien avec la communauté de Marignane. Nous sommes émus parce que cet été il y a eu des événements particulièrement bouleversants, très forts. Tout d'abord l'enlèvement du Père Jacques et du diacre Boutros. Il y a eu l'arrivée de Daesh dans la ville de Carpentaine, des otages et pour une part la destruction pour une part du monastère de Maria. Et c'est dans ce contexte que nous nous retrouvons. Merci à nos amis de la communauté musulmane qui sont présents ce soir. Ils ont été invités. Il y a des membres également de l'association Coexister. Merci également au père Henri Fautrat dans sa responsabilité de déléguer Dieu Saint-Saint des relations avec l'islam. Alors, merci beaucoup, Sœur Carole, de votre présence. Depuis hier soir, vous êtes au Mans, et depuis ce matin, vous êtes très sollicité. Il y a eu une rencontre émouvante avec la presse. Vous avez donné un témoignage très fort, vous avez nous partagé. Et on mesure que, pour vous, chaque mot compte, chaque mot est pesé. Parce que derrière ces réalités, il y a des hommes et des femmes. Et en tout cas, on tenait infiniment à vous remercier d'avoir fait le voyage depuis Rome pour être avec nous ce soir. Alors, Sœur Carole va tout d'abord vous donner l'état des lieux, si j'ose dire, de nous expliquer quelle est la situation. Ensuite, dans un deuxième temps, elle nous expliquera le charisme de cette communauté et comment ce charisme va se poursuivre aujourd'hui dans le contexte de la Syrie. Sachez que tout au long de cette conférence, vous pourrez écrire des questions et nous les rassemblerons pour pouvoir les synthétiser, faire en sorte qu'un maximum de questions puissent être posées à Sœur Carole. Le micro ne servira pas parce que le danger, c'est qu'il y ait une ou deux questions qui soient très développées, très longues, et que tout le monde ne puisse pas faire remonter ces questions. Alors, on se tiendra à votre disposition pour, au fur et à mesure de la soirée. Donc, vous avez des papiers qui sont à votre disposition. Donc, c'est les tracts invitant à cette soirée. Et vous pouvez donc écrire vos questions, vous lever la main avec votre papier, et on viendra jusqu'à vous pour les collecter. Après ce temps de témoignage, donc il y aura le temps pour rassembler les questions, et puis nous conclurons tout à l'heure par une reprise et un temps de prière. Voilà. On peut chaleureusement saluer Sœur Carole et la remercier beaucoup de sa présence.
Merci au Père Christophe, merci à vous tous, amis de Marie-Liane. Je vais suivre, ou plutôt je vais parler d'une manière inversée de ce que vous avez suggéré. Je vais commencer à parler un petit peu de notre cofondateur, le Père Jacques. Et ensuite, après avoir présenté notre communauté, notre vocation, et aussi le passé, je parlerai du présent et et de l'actualité. Voilà. Alors merci d'être venu. Comment parler de notre vocation sans parler du Père Jacques, qui en est le cofondateur? En effet, c'est lui qui, le tout premier, a commencé l'aventure de la vie monastique à Marmoussa avec le Père Paolo en 1991. Il l'avait rencontré à 18 ans, en 1987, lorsqu'il venait de rejoindre le séminaire au Liban. Son ami, Djihad Bortar, aujourd'hui évêque auxiliaire syro-catholique de Beyrouth, l'avait entraîné avec lui à Marmoussa. Cette rencontre et ce lieu ont marqué sa vie. Jacques, très ancré dans l'Église syriaque et jaloux de sa tradition et de sa liturgie, se préparait à devenir prêtre de paroisse. Mais Dieu lui proposait un autre projet. Impressionné par le Père Paolo, qui avait décidé de reconstruire ce monastère en ruine, abandonné au début du XIXe siècle par les moines syro-orthodoxes, il a décidé de prolonger son séjour. Cet été-là, il a participé au chantier de reconstruction. Il dit qu'auparavant, il n'avait jamais apprécié le travail manuel. À cette occasion, cependant, comme l'écrit Brian de Montfou dans son beau livre sur Marmoussa, il découvrait la joie de cuisiner, d'aller chercher le sable à la montagne ou de porter des pierres. Il éprouvait surtout une attirance pour la vie monastique et se sentait solidaire du lieu. Il a commencé à s'y rendre de temps à autre, lorsqu'il venait en Syrie pendant les vacances, même quand le monastère était fermé. En mai 1989, il y a passé 4 jours dans la solitude et le silence, tout seul, et revint de plus en plus souvent. Comme le Père Paolo, le Père Jacques a senti l'appel à faire revivre le monachisme en ce lieu très particulier, imprégné de la prière des moines et des ermites depuis le VIe siècle. C'est cet aspect-là qui a longtemps prévalu dans son appel, à la différence du Père Paolo, qui, dès son noviciat, avait clairement compris que le Seigneur l'appelait à œuvrer pour l'harmonie islamo-chrétienne. Le 26 décembre 1991, fête dans plusieurs églises d'Orient, où les fidèles présentent leurs meilleurs vœux à la Vierge Marie pour la Nativité, Paolo et Jacques ont tous deux reçu l'inspiration d'inclure l'heure de méditation silencieuse à notre liturgie du soir. Le jour de la Sainte-Église, le 20 juillet 1992, Paolo et Jacques firent leur profession monastique ensemble. Le Père Jacques a vécu 10 ans à Marmoussa avec le Père Paolo. Ensemble, ils ont fait face aux difficultés rencontrées et ont eu la joie de voir la communauté grandir. Jacques appelle Paolo « mon compagnon de route ». Liturgiste, le Père Jacques a aidé les nouveaux venus dans la communauté à apprendre la liturgie syriaque avec beaucoup de patience. Il enseignait aussi la liturgie à Alep et l'a fait pour la dernière fois quelques semaines avant son enlèvement. Il est aussi très doué pour le chant et la musique, il a une très belle voix. Au contraire des gens de Pradiatei qui ne sentent pas avoir l'oreille musicale. Il a pourtant réussi, à force d'exercice, à former une chorale paroissiale. Avec les années, le flot des visiteurs augmentait. Le Père Jacques pratiquait surtout notre vocation au dialogue islamo-chrétien dans la dimension de l'hospitalité et de l'accueil de ceux qui venaient au monastère. En l'an 2000, l'évêque syro-catholique de Homs, Hama et Nebek a confié à notre communauté le site archéologique comprenant la tombe de Marie-Liane ainsi que la paroisse de Marie-Liane à Kavéatène. Le Père Jacques est désigné comme responsable et pasteur. En arrivant pour la première fois à Kavéatène, une région très pauvre, qui semblait sans avenir, Jacques avait senti très fort un appel à y prendre racine, même si tous les chrétiens devaient partir, et que lui devait être le dernier. Dans un premier temps, c'est Emma Lousley, une amie archéologue anglaise, qui a vécu en permanence sur les lieux pour étudier le site. Elle y est restée pendant un an. Jacques faisait des allers-retours depuis Marmoussa pour s'occuper de la paroisse. Puis il s'y est installé définitivement pour s'occuper de tous les chantiers. Du sanctuaire de Marie-Liane, avec les salles attenantes au site archéologique pour le petit musée, de la nouvelle église de Marie-Liane, du nouveau monastère, des puits, de l'atelier et de la boutique, d'un petit ermitage, etc. Et en même temps, des projets d'agriculture autour du monastère, les arbres fruitiers, surtout les abricotiers pour la confiture, les roses magnifiques pour la beauté des lieux et pour la confiture, les herbes aromatiques et médicinales, l'oliveraie pour l'huile d'olive, et pendant un certain temps pour la production de savon, la vigne pour les raisins secs, les meilleurs que j'ai jamais goûtés. Mais là, Diane peut certainement vous en raconter davantage, et Raphaël aussi. Marie-Liane est devenue le lieu privilégié de nos rencontres communautaires. Tous les mercredis, on laissait Marmoussa au bon soin des autres, et on passait la journée à Collier avec notre confrère Jacques. Marie-Liane est très liée à mon histoire vocationnelle. Fin 2009, là y consacrée, j'avais été foudroyée dans la lecture du livre du Père Paolo, Amoureux de l'Islam, croyant en Jésus. Le 26 décembre 2009, en priant devant la tombe de Marie-Liane, après la messe célébrée avec Jacques que je voyais pour la première fois, j'ai compris que le Seigneur m'appelait fortement à rejoindre notre communauté. C'est pourquoi j'ai choisi de faire mon entrée en noviciat dans le sanctuaire de Marie-Liane, aujourd'hui détruit. Jacques m'a confié plus tard qu'il y avait vu une prophétie pour moi à porter notre vocation ailleurs, car j'avais été la première de la communauté à faire son entrée en noviciat en dehors de Marmoussa. Il me l'a dit pour m'encourager, un peu avant ma profession monastique, que j'ai dû faire en dehors de Marmoussa, dans notre petit monastère de San Salvatore, à Corre. En 2013, le Père Jacques a ouvert les portes du monastère aux sinistrés des villages musulmans voisins, Ni et Hawali. Il a vécu avec eux pendant des mois. Ça a été pour lui l'occasion d'une conversion intérieure profonde à l'ouverture envers l'islam. Il nous a écrit à ce propos une très belle lettre pour nous partager ce qu'il vivait. Il avait été bouleversé à la vue de la foi et de l'abandon entre les mains de Dieu de ces musulmans sinistrés qui remerciaient Dieu pour tout et se soumettaient à sa volonté en tout dans le malheur. Cela avait fait tomber ses réserves et l'avait rendu encore plus solidaire d'eux. En tant que paroisse jumelle de Kayate, vous connaissez les activités qu'il a faites en faveur de tous, chrétiens et musulmans, dans la région. Des enfants, des jeunes, des adultes, des personnes malades et handicapées. Il avait la tête pleine de projets. Et d'Italie, qui le travaille avec lui dans leur présentation aux bienfaiteurs. Vous connaissez sans doute aussi son engagement pour la réconciliation aux côtés de personnalités musulmanes pour éviter à Kayate le sort des cités bombardées. Le 21 mai, il m'avait envoyé un mail quelques heures avant son enlèvement. Il savait le danger très proche. Après des mois d'incertitude, nous savons aujourd'hui qu'il est vivant. Certainement, sa présence parmi les chrétiens en Kayate est d'un grand réconfort et d'un grand soutien pour eux dans la si dure épreuve qu'ils traversent ensemble. La communauté de Marmoussa aide les chrétiens de Kayate qui ont quitté la ville après l'enlèvement du Père Jacques pour aller vivre dans les villages de Zeid al-Ehreïouzeh près de Reims, et ceux qui se sont enfuis de la région de Kayate avec la venue de Daesh en leur procurant de la nourriture, des couches et le lait pour les enfants, en les aidant à payer le loyer et la scolarité, etc. Tout ceci grâce aux aides que nous recevons de l'étranger. J'aimerais donc profiter de ma présence parmi vous pour vous remercier chaleureusement de votre grande générosité et de votre soutien spirituel qui nous aide à aller de l'avant. Après avoir brossé un tableau du Père Jacques, j'aimerais parler des photos de l'exposition que Cécile Massy, une amie de la communauté qui a vécu un an et demi avec nous, Amar Moussa et Marie-Liane comme volontaires, a bien voulu vous offrir. C'est avec beaucoup d'émotion que je regarde les 60 photos témoins qui racontent la vocation de Marmoussa, où chacun des membres de la communauté a été formé et a vécu pendant des années. Le premier panneau, au fond à droite, montre les bâtiments sous plusieurs angles. Moi, je suis arrivée à Marmoussa presque en même temps que Cécile, et j'y ai vécu jusqu'en septembre 2012. Avant la guerre en Syrie, de nombreux hôtes, chrétiens, musulmans et autres, partageaient notre vie pour une visite courte ou longue, une étape de pèlerinage, une retraite, un discernement. Ils étaient des moines pour un temps. Si je devais définir en une phrase ce qu'était Marmoussa avant la guerre, je dirais que c'était un laboratoire où l'on apprenait dans la vie quotidienne la fraternité entre personnes de tout horizon. C'était un microcosme à l'avant-goût du royaume, où l'on découvrait à travers le vivre ensemble et le dialogue la richesse, la beauté et l'importance de l'altérité. Cet apprentissage se faisait à travers les trois piliers de notre vocation, la prière contemplative, le travail manuel et l'hospitalité sacrée, avec pour horizon la construction de l'harmonie islamo-chrétienne. En quel sens la prière, le travail manuel et l'hospitalité vécue ensemble aident-ils à construire l'harmonie? À bien des égards, mais la prière est la base, la première priorité. Il s'agit d'une prière contemplative, personnelle et communautaire, dans la simplicité que nous trouvons chez les anciens pères du désert et plus proche de nous chez le père Charles de Foucault. Marmoussa est un monastère où tous sont encouragés à prier, chacun selon sa foi et sa tradition, et à profiter de ce temps de désert pour donner plus de place à Dieu. Les non-croyants et ceux qui ne priaient pas étaient tenus de garder le silence par respect pour la prière liturgique des autres et en quelque sorte étaient immergés dans cette prière dans l'immensité du désert. La prière est aussi le lieu privilégié de l'intercession pour les autres. Je me souviens d'un groupe de femmes musulmanes qui étaient entrées dans l'église au moment de la prière des fidèles et m'avait entendu prier pour la sanctification de la communauté musulmane, la Oumma. J'ai été frappée par une d'entre elles qui est venue m'embrasser le front pour cette prière. Peut-être qu'à ce moment, elle a compris que nous étions l'Église pour l'islam. La prière pour l'autre est une école d'amour et de bénédiction. Tous ou presque venaient à la catéchèse du matin. C'est un temps riche d'écoute, de partage et de réflexion sur Dieu et sur l'homme, à partir des textes sacrés, de l'enseignement de l'Église et de la tradition des pères du désert. Le soir, il y a une heure de méditation silencieuse pour tous avant la messe. De plus, le choix de l'arabe, et non exclusivement du syriaque comme langue liturgique, et celui des tapis, comme dans les mosquées, comme ce fut le cas dans le passé aussi dans nos églises d'Orient, sont des choix qui expriment le désir de proximité. Un des panneaux photos présente la prière à l'intérieur de l'église, un autre montre sur une photo ma prise d'habit à Marie-Liane et quelques temps forts de l'habit liturgique. Le travail manuel est notre deuxième priorité. Il unit la personne humaine, corps et esprit, et nous l'accomplissons dans le respect de l'environnement et une conscience vive de la responsabilité que nous portons envers la société dans laquelle nous vivons. Deux panneaux montrent le travail manuel à Marmoussa. Le travail humain fait ensemble pour le bien de tous est une école d'harmonie. À Marmoussa, il y avait toujours beaucoup à faire. Préparer la nourriture, servir, laver la vaisselle, nettoyer, laver les vêtements, aider dans la production du fromage ou des bougies, dans l'agriculture, la construction ou la boutique. Tous ces gestes faits dans une atmosphère joyeuse et fraternelle, la plupart du temps, étaient l'occasion d'échange pour se connaître mutuellement. L'hospitalité abrahamique, qui est notre troisième priorité, est l'école de l'accueil de l'autre dans sa richesse et dans son besoin, son charisme particulier et sa soif spirituelle. Le monastère étant la maison de Dieu, tout le monde, même les moines, sont des hôtes dans le double sens du terme, donner et recevoir l'hospitalité. L'hospitalité est non seulement sacrée, elle est aussi sacrement. Car dans nous, qui entre au monastère et dans notre vie, on reçoit Dieu. À Marmoussa, l'hospitalité est le défi le plus exigeant, car il nécessite une ouverture continue, une sortie de soi et faire l'espace à l'autre en soi. Dans notre monde multiculturel, le chemin de la paix ne peut se passer de l'hospitalité. L'hospitalité est présentée sur deux panneaux, et le bouquet coloré de jeunes femmes en hijab d'un village voisin en visitant monastère est une invite au dialogue. À Marmoussa, seul le premier jour on reçoit l'hospitalité. À partir du deuxième jour, on devient l'hôte qui accueille dans sa propre maison. L'apprentissage est rapide et fonctionne très bien. Chaque mercredi, lorsque la communauté monastique partait pour la journée à Marignane, les hôtes présents étaient responsables de la prière, du travail manuel et de l'hospitalité. L'hospitalité est aussi une clé du dialogue, la voie du dialogue. Et à son tour, le dialogue est hospitalité aux relations entre personnes différentes qui restent telles dans leur vérité. Le vrai dialogue considère l'autre pour ce qu'il est, en respectant ses valeurs, en prenant soin de lui, en reconnaissant qu'il porte en soi une perception de la vérité à partir de laquelle je peux apprendre, qui est donc pour moi. Il ne s'agit pas de réduire, d'harmoniser, d'homologuer notre propre perception de la vérité sur les goûts des autres, ni d'amener les autres à notre perception de la vérité. Nous ne possédons pas la vérité, disait Monseigneur Clavery. Nous sommes pèlerins vers la seule vérité qui nous a créés tous deux, qui nous appelle et se révèle à nous en cours de route, dans l'espace relationnel. C'est dans cet esprit que nous cherchons à promouvoir le dialogue islamo-chrétien sous différentes formes. Dialogue de la vie commune, dialogue de la solidarité, dialogue théologique, etc. À présent, le Moyen-Orient vit un drame qui nous affecte tous dans notre humanité. Entre autres, il nous met sous les yeux l'échec du vivre ensemble dans la diversité. Cet échec ne date pas d'aujourd'hui et a connu d'innombrables récurrences tout au long de l'histoire. C'est pourquoi nos mémoires communautaires sont profondément blessées. Il y a un travail énorme à faire pour guérir la mémoire. En Syrie, par exemple, nous nous rendons compte tous les jours de la grande difficulté. Les chrétiens d'Orient ont peur de l'islam, surtout de l'extrémisme musulman. Les musulmans, dans certains courants, ne pardonnent pas aux chrétiens leur abus, à ceux que ce dernier considère comme leurs protecteurs. Nous sommes dans une logique de survie, les uns contre les autres, bien loin de l'idéal de vivre ensemble. Que faisons-nous, moines et moniales de Marmoussa, pour préparer l'avenir? Notre travail sur le terrain est très humble, à contre-courant et à long terme. Nous ne nous attendons pas à un résultat dans l'immédiat. Tout d'abord, la fidélité à la prière. À Marmoussa, il n'y a pratiquement plus d'autres comme par le passé, même si récemment, de plus en plus de personnes viennent nous rendre visite. Mais nous vivons tout de même la dimension de l'hospitalité dans la prière d'intercession. Quand nous portons des personnes de toutes les appartenances et de tous les partis dans notre prière, nous avons tous besoin de Dieu. Et lui seul, le Père de tous, peut nous sauver du désastre. Nous ressentons le besoin de prier pour tous. Il est facile de prier pour les victimes avec lesquelles nous nous identifions. Plus difficile pour ceux que nous craignons ou que nous haïssons. Mais quand nous prions, la haine disparaît. Seule reste la remise de tout entre les mains de Dieu. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu ou dans l'efficacité de la prière, cette dimension peut être vécue quand même d'une autre manière. Un thérapeute ne parvient pas à aider, par exemple, un système familial que s'il n'exclut personne et évite de s'identifier avec les uns contre les autres. De même, celui qui veut aider doit considérer le bien de tous, des victimes d'aujourd'hui comme des bourreaux. Les victimes d'aujourd'hui sont parfois les bourreaux d'hier et deviennent souvent ceux de demain. Dans nos monastères, nous avons vécu et vivons encore la dimension de l'hospitalité dans l'accueil des réfugiés. Depuis plus d'un an, 47 familles chrétiennes originaires de la région de Mossoul et de la plaine de Ninive, surtout de Karakoche, y compris une soixantaine d'enfants, habitent avec nous. Au Kurdistan irakien, où nous avons un monastère dédié à la Vierge Marie depuis 2011. Der Mariam. En 2013-2014, plus de 500 musulmans, dont une centaine d'enfants, ont habité à l'intérieur de Der Mariam pendant 5 mois et plusieurs milliers alentour. L'hospitalité crée des liens très forts. Avant son enlèvement, Père Jacques était devenu un point de référence pour les chrétiens et les musulmans de la région. Et au moment de son enlèvement, il préparait l'accueil des familles musulmanes qui avaient fui Palmyre. Beaucoup se demandent et nous demandent, peut-il y avoir un dialogue avec l'islam aujourd'hui? Au Kurdistan irakien, ce sont les musulmans qui ont pris l'initiative de contacter notre monastère à travers l'Institut de formation des imams et des professeurs de religion. Depuis quelques mois, nous avons des rencontres régulières de dialogue. J'ai moi-même participé aux 4 premières rencontres. En Syrie, c'est le dialogue de l'hospitalité et de la solidarité en acte que nous pratiquons. La parole ne porte plus. La peur de l'islam radical est trop forte chez les chrétiens et chez beaucoup de musulmans aussi. En revanche, ici en Europe, le dialogue est non seulement possible, mais il est une urgence incontournable sous toutes ses formes, et l'hospitalité aussi. Devant le drame des réfugiés qui nous rappelle que les distances ne comptent pas et que nous sommes responsables les uns des autres, de quelque religion, nationalité ou ethnie que nous soyons, nous devons relever le défi de l'hospitalité avec courage, sagesse et discernement. Il ne s'agit pas seulement de donner aux réfugiés la possibilité d'entrer en Europe, mais surtout de saisir cette chance qui nous est donnée de travailler à l'avènement du royaume, ce royaume d'unité dans la diversité. Le défi est grand et nous risquons de le louper si nous exigeons d'eux qu'ils deviennent à notre image ou si nous les reléguons dans des structures ou des espaces où la violence et la frustration ne peuvent que germer. Il est nécessaire de veiller à la qualité de l'accueil, à la proximité et au suivi, et de profiter de la richesse des dons présents dans toutes les paroisses et de toutes les bonnes volontés. La balle est dans notre camp, il s'agit de bien jouer. Merci de votre attention. Voilà, j'ai préparé. une série de photos que j'aimerais vous montrer en silence. Voilà, vous les comprendrez parce que j'ai mis des indications, des explications.
Thank you. Merci beaucoup pour ces photos qui nous ont permis de mesurer combien notre jumelage était en lien avec les visages. C'est ça aussi la chance de notre lien. Ce n'est pas abstrait, c'est vraiment s'inscrire dans l'incarnation des visages, et chacun de ces visages nous disent quelque chose de Dieu. Merci beaucoup de nous avoir partagé la vie de ces différentes communautés à travers ce très beau montage photo. Alors maintenant, nous allons avoir le temps des questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, et donc on va collecter les questions, et très rapidement, on va en faire la synthèse. Et pendant ce temps-là, nous allons demander à notre ami le trésorier de l'association, c'est Marie, de nous dire un mot. Pardon, Christophe, je suis le secrétaire de l'association. Essayons donc du conseil d'administration de votre association que je vous adresse à vous ce soir. Donc, remerciant particulièrement Sœur Carole pour ce témoignage vivant. Je voudrais donc vous faire appel à votre générosité. Tout à l'heure, il va y avoir donc d'autres familles qui vont passer pour une quête. Nous faisons appel à vos dons. Vous savez que tous les dons que vous donnez sont transmis et arrivent à bonne destination. Et je vais vous lire un mail que nous avons reçu le 14 août. C'est tout récent. Et c'est le père Gérard, donc de Marmoussin, qui nous l'envoie. Je viens de visiter nos amis de Carpiatay qui ont fui de la ville le deuxième jour après l'attaque de Daesh. Pour être bref, il y a presque 150 familles chrétiennes entre Zeydan et Feyrouzi, les deux villages où se sont réfugiés. Il en reste presque 95 à 100 familles de la paroisse, encore à Carpiatay. Les familles qui se sont échappées vivent chez leurs amis, les parents, à Zeydan et à Feyrouzi. Mais ils ne peuvent pas rester longtemps chez les accueillants. Il y a le cas d'une famille en particulier qui sont 37 personnes dans une maison, deux à trois chambres. Et puis, ils citent tous les besoins urgents, des médicaments, du savon, du lait pour bébé, 25 à 30 bébés entre 1 et 3 ans, et ainsi de suite. Encore une fois, je vous remercie d'avance pour votre générosité de cœur. Et cette quête aussi servira pour couvrir une partie du coût de la visite de Sœur Carole et de Cécile. Merci d'avance.
Merci à notre secrétaire Maroud. Un grand merci. J'en profite le temps qu'on puisse bien collecter des questions, remercier Cécile pour l'exposition, puisqu'elle a la générosité de l'offrir à l'ensemble paroissial. Donc pendant un certain nombre de semaines, l'exposition va rester ici à Notre-Dame de la Couture, ensuite elle ira bien entendu à la cathédrale, et je sais que d'autres paroisses seront heureuses, donc c'est une exposition qui va circuler dans le diocèse. On peut remercier Cécile. Voilà. Donc, on va demander à Anna de nous jouer du oud. On la remercie beaucoup. On se permet de rappeler qu'il y a 4 ans, donc, cette association Fraternité Chrétienne Saint-Orient s'est mise en route, donc il y a deux jumelages, et il y a un conseil d'administration, donc avec un président, avec un secrétaire, un trésorier, des membres adhérents, et puis donc il y a les deux comités de jumelage qui vont vivre cette relation et puis permettre de nouer des contacts très forts avec un certain nombre de communautés chrétiennes. Alors, merci à Anna de s'installer. Merci à François de placer le micro.
Cette fois-ci, donc, c'est un autre instrument, c'est le wood. Thank you.
Se trouve à l'entrée de la ville. Donc, il faut bien savoir qu'il y a le monastère de Marie-Yann avec le sanctuaire qui a été détruit donc, et les fouilles devant le sanctuaire sur l'emplacement de l'ancien monastère. Et ce complexe est appelé Deir Marie-Yann, le monastère de Marie-Yann, mais dans la ville de Qaryatayn, il y a la paroisse de Marie-Yann avec l'église de Marie-Yann. Donc il y a deux églises dédiées à Marie-Yann, l'église du monastère et puis l'église paroissiale. Et donc voilà, j'ai entendu dire par des personnes qui ont pu être sauvées par un voisin musulman de Qaryatayn qu'en sortant, ils avaient vu que l'église syro-orthodoxe de Qaryatayn avait été détruite par le bombardement du régime après la prise de Qaryatayn par Daesh. Et l'église syro-catholique avait été endommagée par les bombardements. Bon, ça c'était il y a un certain nombre de semaines. Donc maintenant, je ne sais pas. En ce qui concerne Maroussa, le reste de la communauté qui se trouve en Syrie, c'est-à-dire les Syriens de la communauté, ils y sont encore. Donc ils se trouvent encore au monastère et ils continuent la vie. Je vous ai montré des photos de la vie à Maroussa et des photos très récentes. Il y en a une que j'ai intitulée août 2015. Pour attirer votre attention, je l'ai écrit en grand, mais voilà. Donc il y avait à peu près 70 personnes qui sont venues de la ville de Nebek le jour de la fête de Maroussa et qui ont pris ces photos, voilà, qui nous ont communiqué. Donc la vie continue jusqu'ici. Ils sont encore sur place. Ils ont un discernement perpétuel à faire au jour le jour.
Que devient le père Paolo?
Ah, j'aimerais bien le savoir. Malheureusement, on n'a rien en main. Aucune preuve de vie, aucune preuve de mort. Des activistes continuent de dire avec insistance qu'il est en vie.
Quand vous parlez et montrez des photos de rencontres islamo-chrétiennes, comment se passent ces rencontres, ces dialogues? En langue arabe, est-ce qu'il y a une lecture du Coran, de la Bible? Est-ce que le dialogue est-il toujours possible?
Voilà. Alors, avant de commencer à répondre, j'aimerais dire que moi, je suis arrivée dans la communauté avec la lettre d'interdiction de tout séminaire, séminaire de dialogue islamo-chrétien. Voilà. Donc, malheureusement, j'ai pas pu y participer à Maroussa. Par contre, j'y ai participé ailleurs, dans nos autres monastères. Et j'aimerais dire et insister qu'il ne s'agit pas de quatre communautés dans les quatre monastères, mais d'une seule communauté. Vous avez vu, on est uniquement 11 personnes et on est une seule communauté présente là où on a besoin de nous. Donc c'est la communauté dans son ensemble qui décide qui, à un moment particulier, est envoyé dans l'un ou l'autre monastère. En ce qui concerne donc le dialogue islamo-chrétien et les séminaires qui se faisaient à Maroussa, là on parle du dialogue théologique, hein, parce que le dialogue de la vie commune se faisait tous les jours avec nos collaborateurs musulmans et chrétiens, avec tous les visiteurs qui venaient. Donc on parlait un petit peu de ce qui nous intéressait, aussi de religion ou pas, tout dépendait des personnes et des rencontres. Mais les séminaires s'organisaient autour d'un thème particulier. Je vous donne un exemple. La retraite, donc Al-Khalwa fi Adyan, donc la retraite dans nos religions. Par exemple, la perspective, enfin l'avènement dans nos deux religions, donc l'espérance eschatologique, voilà. Et là, il y avait beaucoup d'invités de plusieurs communautés et de plusieurs rites, donc des invités de plusieurs rites chrétiens, de communautés chrétiennes. mais aussi des sunnites, des chiites, des soufis, il y avait un petit peu, tous ceux qui s'intéressaient au dialogue, voilà, qui venaient, qu'on invitait, et qui parlaient de ce thème à partir de leur propre tradition. Et puis il y avait des échanges, des questions. Et à partir de ces séminaires, à chaque fois, on a écrit un livre et on l'a publié, le tout en arabe. Donc on n'a pas encore publié les livres de tous les séminaires qu'on a organisés. Au Kurdistan, l'initiative a été prise, comme je l'ai dit auparavant, par un institut de formation des imams et des professeurs de religion musulmane. Et donc, on discutait de thèmes plutôt théologiques. Donc c'est un dialogue de spécialistes aussi. Il se déroulait en arabe, mais aussi un petit peu en anglais, parce que les Kurdes, les imams parlent tous arabe, c'est clair, mais il y avait d'autres personnes qui ne parlaient pas vraiment bien l'arabe, ce qui fait qu'ils parlaient kurde et nous on ne comprend pas encore le kurde, donc on passait à l'anglais ou à l'arabe, il y avait des traductions. Voilà. Ça se passait un petit peu comme ça. On ne parlait pas uniquement de ce qui nous intéressait, de ce qui nous interrogeait dans nos écritures saintes, mais on parlait également de ce qui nous préoccupait, du mode d'interprétation. On essayait d'expliquer la manière dont nous on lisait notre écriture. Chacun parlait de sa propre écriture, de la manière dont il la lit, dont il l'interprète, et aussi de la lecture qu'il fait de l'écriture de l'autre, et comment elle est à comprendre. Voilà, c'était vraiment un champ d'échange, voilà, très respectueux, parfois provocateur.
Est-ce qu'il pourrait y avoir un monastère de votre communauté en France et au Mans?
Si on avait des vocations, on y penserait. En tout cas, l'Europe est très importante pour nous en ce moment. Et c'est pourquoi on a décidé de transformer la maison d'étudiants qu'on avait à Cory en monastère. Et on en a parlé avec notre évêque. Et voilà, on a... Il vient de nous, enfin le 8 septembre, donc il y a quelques jours, il vient de signer un accord avec notre communauté pour assurer notre présence. Voilà. Et donc, comme on est très peu nombreux, on attend les vocations. Et prions pour les vocations, qu'elles soient nombreuses, et comme ça, on pourra être présent en France aussi, et qui sait. Au Mans, peut-être.
Les Syriens qui sont qui émigrent, qui viennent en Europe, est-ce qu'ils sont, qu'ils reviendront un jour en Syrie après la guerre, soit musulmans ou chrétiens?
Ah, ça, il faut leur demander. Hein. Je ne peux pas me permettre d'être le porte-parole. De personnes qui peuvent. Chacun choisit. Qui sait? Puis qui sait comment ça sera la Syrie elle-même? Si elle sera intéressante ou moins intéressante pour un temps, pour les uns ou pour les autres. En tout cas, s'ils ont quitté la Syrie, c'est qu'ils en avaient besoin. Ils avaient besoin de cette distance. Moi, il faut dire, je parle de ma propre expérience. J'ai quitté le Liban après avoir vécu 13 ans de guerre. Et je voulais quitter le Liban parce que je n'en pouvais plus de la guerre. Et j'ai vécu plus de 20 ans en Allemagne. Mais le Seigneur, lorsqu'il veut rappeler quelqu'un à l'ordre ou l'inviter voilà, à aller au-delà de ses limites, des limites qui s'est posées, il sait faire. Et moi, en tant que Libanaise, enfin Libano-Allemande, mais Libanaise d'origine, il m'a envoyé en Syrie, un thème très difficile pour une Libanaise. Et il m'a envoyé dans un monastère dont la vocation est le dialogue islamo-chrétien. Et nous, on connaît les répercussions de la guerre au Liban. Enfin, moi, l'islam ne m'attirait pas. J'avais envie de vivre en chrétienne, dans un milieu chrétien, et c'est tout, voilà. Et pourtant, je suis très reconnaissante au Seigneur d'avoir guéri mes peurs à la racine et de m'avoir fait connaître l'islam différemment. Voilà. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai aimé la Syrie plus que le Liban. Enfin, j'ai vécu en Syrie beaucoup plus volontiers qu'au Liban. Je m'y sentais beaucoup plus à l'aise. Et le Seigneur, quand il travaille, il réconcilie les cœurs. Voilà. On peut demander cette grâce. Cette grâce, ça a été une grâce pour moi. Vraiment.
Que répondriez-vous aux hommes politiques français qui souhaitent accueillir des réfugiés et uniquement chrétiens, car ils auraient plus de points communs avec nous que les musulmans? Voilà.
Bon. Alors, ces hommes politiques sont des chrétiens qui le disent? Ça peut. Si c'est des chrétiens, je leur demanderais tout simplement de se demander ce que Jésus-Christ aurait fait à leur place. Et j'aurais pas besoin de répondre parce qu'ils le savent. J'ai déjà provoqué des personnes qui me disent ça en leur disant: mais vous êtes sûr que le Christ aurait fait la même chose? Et donc ils me regardaient comme ça et ils ne voulaient pas répondre. Et je leur dis: bon, vous connaissez la réponse. Et en tout cas, soit on est chrétien d'appartenance, et soit on veut être vraiment chrétien et avoir en nous les sentiments du Christ. Voilà. C'est très important pour nous en ce moment d'être solidaires avec les personnes souffrantes, de quelque appartenance qu'elles soient. Je l'ai dit auparavant, je le répète, c'est très important. Parce que c'est une chance qui nous est donnée, j'ai pesé mes mots, pour la construction du royaume qui est le royaume de l'unité dans la diversité. Je ne crois pas que le royaume de Dieu pour lequel on travaille sera un royaume où il y aura un camp pour les chrétiens, un camp pour les musulmans, un camp pour les femmes, un camp pour les hommes. Non, ça colle différemment. On connaît l'écriture, voilà. Et on sait comment on y accède, par la charité. Et donc j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'étais prisonnier, vous m'avez cité, et je peux dire j'étais réfugiée, vous m'avez accueilli, voilà. Pas besoin de... C'est une chance de toute façon, oui, je le répète. De sauter au-dessus de la barrière de la peur. Parce que les peurs sont là. Les peurs sont là. Les préjugés sont là. Se connaître davantage, c'est le premier pas. Et comment se connaître mieux que quand on s'accueille? La qualité de l'accueil est très importante aussi. L'amitié, voilà. J'ai des amis musulmans qui se préoccupent de mon salut. Parce que, comme nous, on avait la maxime hors de l'Église, point de salut pendant très longtemps, enfin, elle est encore ancrée dans la tête de beaucoup de personnes, en islam, c'est pareil. Or, l'amitié qu'on développe nous fait avoir envie de rester ensemble et de connaître ensemble le paradis. Voilà. Donc, ces préoccupations les uns pour les autres, elles viennent à partir de l'amitié. J'espère qu'on aura ce genre de préoccupations plutôt que la préoccupation de savoir ce que l'ouverture de nos portes va nous enlever. J'espère qu'on pensera plutôt à ce qu'elle va nous apporter.
À Gayatein, les otages, ceux qui sont pris en otage, qui n'ont pas de liberté, sont chrétiens, mais aussi certains sont musulmans.
Oui, beaucoup plus nombreux. Hein.
À quelle proportion, justement? Et puis, donc, à peu près, quels sont les mobiles de leur arrestation, de cette situation?
Oui. Alors, moi, je ne me trouve pas à Gayatein, donc je parle de ce moment. D'après ce qu'on a compris, ce qu'on a pu comprendre, et c'est logique, les personnes qui ont été arrêtées, enfin les musulmans qui ont été arrêtés, ont été accusés d'être des partisans du régime. Mais entre autres aussi des fonctionnaires de l'administration, etc. Mais c'est typique, disons, pour Daesh. La proportion, ouais, il y a plus que le double de musulmans que de chrétiens. Enfin, les chrétiens, selon ce qu'on a su, on ne sait pas à 100% si c'est vrai, les deux premiers jours, ils ont été placés dans deux maisons, donc ensemble, et puis on leur a dit de rentrer chez eux et de ne pas en sortir, les femmes et les enfants. Les hommes pouvaient sortir, soit pour travailler, soit pour acheter, enfin pour faire des courses. Voilà. Comment ça se passe maintenant, je ne sais pas.
N'avez-vous pas l'impression d'être pris en étau entre Daesh et le président Bachar?
Vous me posez la question en tant que personne, en tant que représentant d'une communauté, en tant que chrétienne, enfin bon, il faut différencier. Oui. En tout cas, la communauté chrétienne est dans une impasse, ça c'est sûr. Oui.
Quel avenir et quelle vocation pour les chrétiens d'Orient?
Quel avenir, ça ne dépend pas de moi. Je me souviens que le père Paolo, avant son enlèvement, nous avait dit et répété, nous sommes des semences. Nous n'allons pas voir le fruit de nos efforts. Nous sommes des semences, des graines jetées en terre, mais il est important d'être des semences. Merci.
Merci à Diane François d'avoir relayé les questions que nous avons au maximum synthétisée. Nous arrivons au terme de cette soirée. Pour nous, c'était un grand cadeau, d'abord que vous soyez venus, ensuite que vous nous ayez apporté ce témoignage, chacun d'entre nous a pu mesurer que chaque mot était pesé, réfléchi, et que pour nous tous, ce soir, vous êtes un merveilleux témoignage de ce dialogue islamo-chrétien que vous portez dans votre vocation. Et bien entendu, ça nous renvoie les uns les autres aux propres responsabilités, surtout vu le contexte. Il y a cette idée à travers la question sur la création d'un monastère. La thèse sera entendue. Qui sait ? En tout cas, nous ne pouvions pas achever cette soirée sans que puisse résonner un chant de prière. Et on proposait que ce soit le chant à Marie, et que ce soit sur l'air que votre communauté a l'habitude de chanter, que les personnes connaissent ces airs pour pouvoir se joindre à vous. Et si vous voulez, on peut se lever au terme de cette soirée.
D'accord. Avant de commencer, c'est une mélodie particulière, Akariyate. C'est vraiment l'Ave Maria telle que les chrétiens de Akariyate le chantent. Nous, à Marmoussa, on a plusieurs mélodies, dont celle-ci.
سلام لك يا مريم يا ممتلي الأنعمات رمعك بارك أنت في النساء بارك طهرة بطنك يسوع يا خديسة مريم يا ولدت الله صلي أجرنا نحن الخطى الآن وفي ساعة موتنا آمين.
Donc encore une fois, un très grand merci à Sœur Carole, merci à Cécile, merci à tous ceux et celles qui ont préparé et animé cette soirée. Et puis donc, en sortant, si vous souhaitez, vous pourrez faire une offrande et que cette offrande permettra premièrement d'assurer les frais de la venue de Sœur Carole et le reste sera transmis à Maria. Merci beaucoup. Bonne soirée.